Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Manon Jean. Bonjour Manon.
Bonjour.
Donc c'est ta deuxième fois que tu participes à ce podcast.
Oui, avec plaisir.
Et donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas écouté notre premier entretien à le découvrir. Comme ça, ils vont découvrir un peu ton parcours. Et en allant donc sur le blog, sur Pratiquer la méditation, faites une recherche Manon et vous tomberez sur le premier épisode. Et donc toi, Manon, tu t'occupes du programme Arbre en cœur, où tu proposes un travail pour le bien-être des enfants à travers la méditation dans les écoles au Québec. Donc là, tu me disais, cette année, tu as travaillé avec plus de 5 000 enfants. Tu es aussi l'auteur de 3 ouvrages, eux aussi axés sur le bien-être des enfants, le bien-être émotionnel des enfants. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la confiance en soi pour les enfants. Donc comment aider un enfant à avoir confiance en lui. Et on va aussi en profiter pour parler de ta venue prochaine en Europe. Donc c'est la première fois que tu vas venir enseigner en Europe. Tu vas venir à Bruxelles en septembre, fin septembre, début octobre. Et donc on en parlera pour les personnes que ça intéresse. Alors, confiance en soi pour les enfants. Personnellement, j'ai pas d'enfants. J'ai 2 neveux, une petite nièce, âgés entre 3 et 7 ans. Et je vois par rapport à eux, par rapport à leurs petits copains, que déjà, il y a parfois un manque de confiance. Parfois, il y a la question de confiance en soi commence déjà à se manifester par rapport à l'école, par rapport à la réussite dans l'école, dans les exercices, dans les devoirs, par rapport aux aptitudes sportives. Et ces enfants sont parfois en difficulté. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les autres enfants peuvent être assez difficiles. Donc, ils ne les ménagent pas. Et donc, comment faire pour aider un enfant à avoir confiance en lui lorsqu'il commence l'école, lorsqu'il commence à douter de ses capacités par rapport aux autres enfants?
Oui. Mais je pense aussi que la question doit premièrement se poser à nous-mêmes en tant qu'adultes. Qu'est-ce qui fait qu'on perd constamment notre confiance ou qu'elle est à renouveler? Je pense que c'est vraiment en lien avec tout le sentiment de performance qu'on vit. Tout ce qu'on s'exige aussi en pensant que le bonheur est dans des accomplissements. Alors, moi, je me suis posé cette question-là beaucoup aussi en tant que mère qui voulait être une mère performante pour avoir des enfants parfaits. Puis je me suis rendu compte que d'avoir cette pensée-là augmentait encore plus mon niveau de stress, mon agressivité même envers eux autres, puis faisait en sorte que notre relation devenait de plus en plus étroite, même très mince. Fait que finalement, je me suis peut-être posé cette question-là au bon moment, justement, pour aller chercher des valeurs plus profondes, des valeurs familiales qui sont autour de l'amour, de la compassion, de l'empathie. Surtout pour moi-même, en premier, tu sais, de réaliser que peut-être que ça me faisait peur de devenir une mère, ça me faisait peur de peut-être pas être à la hauteur, puis de perdre complètement ma confiance. Alors moi, ce que j'observe beaucoup chez mes enfants, parce que moi, je trouve que mon laboratoire est un peu à la maison avec mes enfants, parce que j'en ai 2, mais aussi dans les écoles maintenant, avec les jeunes avec qui je travaille, puis le sentiment de confiance. Comment on amène ça chez les enfants, c'est qu'on leur apprend juste à se déposer. C'est un mot tellement grand, avec une grande importance, mais tellement insignifiant en même temps. D'apprendre à se déposer, c'est juste d'apprendre à reconnaître comment ça va à l'intérieur de nous. Puis plus on apprend à reconnaître ça, plus on apprend à développer un sentiment bienfaisant à travers la peur, la tristesse, l'inconnu, le doute. C'est ça qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus confiant quand on apprivoise ces sentiments-là.
Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux préciser par ce que tu entends quand tu dis déposer?
Déposer par la respiration, par exemple. Apprendre à se déposer en prenant le temps de respirer.
Comme relâcher, se connecter à soi, voilà, relâcher, oui. D'accord.
Relâcher, déposer, c'est simplement prendre le temps de prendre conscience comment ça va. Prendre le temps d'écouter aussi le sentiment qui est là au moment même. Tu sais, ça se peut qu'il y ait un examen qui s'en vienne, ça se peut que je ressens le stress, la tension, la peur. Mais si j'ai jamais appris à reconnaître ça, ça va augmenter encore plus mon niveau de stress, puis je risque de perdre cette confiance-là. Mais si, par exemple, on entraîne les enfants à respirer dans un sentiment de peur, d'inquiétude, ou à fermer les yeux pour simplement apprendre à se connecter avec la peur, l'incertitude, l'inquiétude, bien, l'enfant, il va plus être capable d'accepter comment il se sent, puis s'il tient vraiment à réussir, il va réussir malgré ce sentiment-là. Puis je pense qu'il va réussir davantage parce qu'il va avoir appris à se connaître avant tout. Alors moi, ce que j'observe beaucoup dans les écoles, c'est comme on discutait un peu tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de savoir-faire à l'école, énormément de savoir-faire. Puis il y a des enfants qu'eux, là, ils ont besoin d'être quelqu'un. Puis ça, on ne l'enseigne pas malheureusement. Puis on a une génération de parents aussi qui n'ont pas appris ce savoir-être-là, qui essayent de le retrouver dans des accomplissements professionnels, mais on ne le retrouve pas, ça. Alors, ça, c'est important aussi. Puis je crois que les enfants, souvent, ils sont là vraiment pour nous aider à retourner à la source. Et cette source-là, c'est ce qu'on est véritablement.
D'accord. Donc, c'est vraiment ça. La base, c'est l'adulte, c'est le parent par rapport à lui-même, ses ressentis, sa confiance. Et ensuite, c'est d'amener l'enfant à prendre conscience de ce qu'il ressent. Lorsqu'il ressent de l'inquiétude, du stress, de la peur. Donc, le familiariser avec ces états, en quelque sorte.
Oui, parce que je vais juste interpeller une petite seconde, parce qu'on parle beaucoup de bonheur. T'sais, on dit on recherche le bonheur, mais on prend jamais le temps de ressentir c'est quoi la joie et la paix. T'sais, puis on cherche le bonheur, on cherche le bonheur, on cherche le bonheur, mais on n'a jamais pris le temps de se déposer à ressentir c'est quoi en dedans de moi la joie. Puis c'est la même chose aussi, t'sais, avec tous les autres sentiments qu'on recherche, on n'a jamais pris le temps d'apprendre à se déposer pour savoir ça résonne comment pour moi, t'sais, la confiance en soi, comment je le ressens. Peut-être que je ne l'ai jamais ressenti de ma vie, puis je la recherche dans plein de choses, t'sais, pour prendre le temps.
D'accord. Et quelle serait la mise en mots pour amener un enfant à se relâcher, à se connecter, à se déposer, à ressentir les choses? Un enfant qui manifeste ça à ses parents en disant voilà, j'ai pas réussi, c'est trop compliqué, je vais pas m'en sortir ou c'est trop difficile pour moi. Comment lui expliquer, dans quel mot utiliser pour lui expliquer que voilà, ce qui est important, c'est de ressentir ce qu'il ressent en ce moment-là?
Oui.
Comment transmettre cela?
Oui, puis j'aime beaucoup cette question-là parce qu'en même temps, la réussite est là parce que l'enfant, il réussit à dire un peu comme il sent à travers ce qui s'est passé. Comme si, par exemple, il dit qu'il n'a pas réussi ou il a peur de ne pas réussir. Il est en train de parler de lui, là. C'est déjà beaucoup, ça. Mais souvent, le parent, tout de suite, il va encourager pour encourager. Mais en même temps, si on fait juste reconnaître à l'enfant à dire, ben, tu sais, bravo, tu es capable d'identifier comment tu te sens, c'est grand, ça. Puis c'est une des façons, moi, je travaille beaucoup avec les enseignants dans les écoles à leur dire ça, c'est énorme. Un enfant qui arrive à dire ça, c'est énorme de le valoriser en disant, hey, c'est grand ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu as peur de faillir ton examen ou de ne pas réussir quelque chose. Puis l'enfant, juste en entendant cette parole-là, il se sent reconnu. Se sentir reconnu, est-ce que ça apporte une confiance quelconque?
Je pense D'accord, donc ça c'est vrai que c'est une importante nuance. Parce que
c'est
comme tu dis souvent, on a tendance à passer à l'étape suivante. D'accord, il y a un problème, il faut le résoudre. Comment tu peux faire pour avoir des meilleures notes, pour réussir? Et c'est vrai que voir le constructif, le bénéfique dans ce que l'enfant vit dans l'instant, lorsqu'il communique ce qu'il ressent. Comme tu dis, ça doit déjà le réconforter dans ce qu'il est en train de vivre, que c'est OK d'avoir des difficultés et que c'est bien de pouvoir les exprimer.
C'est ça, donc c'est juste augmenter le sentiment agréable qu'on a de soi, mais dans l'émotion désagréable. Donc c'est ça qu'on fait à travers la météo intérieure, c'est ce que je prône beaucoup et le message Caméléon, c'est qu'on amène toutes les sortes de météo et on fait réaliser aux enfants que vivre dans la météo du soleil, c'est pas possible constamment, ça peut arriver. Mais les causes et les conditions de la vie font en sorte que la météo change constamment. C'est facile de parler de la météo qui fait dehors, c'est notre sujet favori. Mais est-ce qu'on parle de la nôtre? Est-ce qu'on parle de notre météo intérieure? Pas vraiment, tu sais. Puis il fait pas toujours beau, puis on chiale quand il fait pas beau dehors. Mais nous aussi, c'est important de comprendre qu'il peut y avoir toutes sortes de météos qui arrivent à l'intérieur de nous par les causes et conditions qui nous chamboulent. Puis si on a de l'acceptation, puis on apprend à être bien dans le désagréable, c'est ça qui amène une confiance. Moi, je crois que la confiance doit être basée sur ça, d'apprendre à être bien dans le désagréable pour faire en sorte que la vie ne nous fait plus peur. Tu sais, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous chamboulent qu'on peut juste comme apprendre à être bien dans le désagréable, être bien quand on a peur, être bien quand on est stressé, être bien quand on est anxieux, puis d'apprendre à se féliciter d'être bien là-dedans, ça augmente, ça amène un sentiment de joie. Mais ça amène un sentiment de confiance et d'estime personnelle parce que c'est renouvelable à tout instant. Donc on
parce que c'est vrai que la vie peut être très imprévisible et tout ne peut pas aller dans la direction qu'on veut ou que la direction dans laquelle l'enfant espère aller. et avoir ces outils pour être pour accepter d'être bien, même quand ça se passe pas comme on veut, c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt sain et que tout le monde devrait avoir, parce que les imprévus vont arriver, les inconvénients, les difficultés, la douleur, la maladie, ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est vrai que plus tôt on apprend à apprivoiser ces événements de notre vie et ce qu'on ressent par rapport à ces événements, mieux on se portera et mieux on y fera face.
C'est ça, c'est d'apprendre à vivre avec l'impermanence, parce que tout est comme ça. Puis c'est une vérité. Sur le coup, ça peut être troublant d'entendre ça, mais en même temps, moi, c'est une des choses que je me fais plaisir de discuter avec les enfants dans les classes, pour qu'ils puissent juste comprendre, c'est ça. C'est l'impermanence tout le temps, comme la météo change tout le temps, puis d'apprendre à voir toutes nos météos intérieures, c'est juste apprendre à savoir qui on est vraiment. Donc, quand on parle de se déposer, c'est d'apprendre à se dire, ben moi, je suis conçu de 10-15 sortes de météos. Ben ça varie d'une fois à l'autre, mais si je suis capable de toutes les visiter, j'aurais pas le goût de prendre mes jambes à mon cou pour me sauver quand je vais pas bien, puis consommer quelque chose au plus vite, pour me sentir confiant.
Pardon, juste par rapport aux météos, comme peut-être certains des auditeurs n'ont pas entendu notre premier entretien, la météo, ouais, c'est lorsque c'est une image ou c'est une façon d'amener l'enfant à exprimer ce qu'il ressent.
Oui, ben, c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est comme un genre de mandala avec plusieurs météos à l'intérieur. Il y a la météo de la pluie, du vent, des orages, etc. Puis on associe ça à des sentiments intérieurs. Puis on a juste une petite pointe de soleil, puis le reste, c'est toutes sortes de météos. Puis d'essayer de juste comme créer ce sentiment-là, et les enfants sont parfois soulagés de comprendre, qu'ils se disent « Ah, ouais, c'est pour ça d'abord que je suis pas toujours joyeux. » Puis des enfants, ils se mettent à être plus heureux parce qu'ils lâchent prise sur le bonheur, parce que ça leur est tellement demandé et exigé. Parce qu'on vit dans une société où on doit être tout le temps « Hey! » Souriant.
Tout le temps bien, tout le temps, oui, et performant.
Et performant, bien sûr. Alors, les enfants se sentent comme soulagés de comprendre que, moi, je peux être dans des météos de la pluie, puis c'est normal. Mes copains, mes copines aussi, ils ressentent la même chose que moi. Puis beaucoup d'enfants ont peur de la météo du soleil parce qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas autant que ça leur est demandé. Puis d'autres veulent être toujours là parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas là, ils ne seront pas capables de bien vivre les autres parce qu'ils ne sont pas confortables là-dedans. Alors, je pense que c'est un art de vivre qui est tellement précieux. Puis si on serait jour après jour sous l'effet du soleil puissant, chaud, est-ce que ça aurait des bénéfices pour la nature? Pas vraiment. Hein? Alors, ça amènerait du dessèchement, ça amènerait, on serait tanné de vivre du soleil. Ben voyons donc, la pluie va-t-elle arriver?
c'est vrai, pour voir la beauté de la nature, on a besoin du soleil pour la voir, mais avant ça, de la pluie pour la nourrir et la faire grandir.
Oui, alors c'est pour ça que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de montrer à l'enfant que cette pluie-là, qui est cette tristesse-là, quand elle est bien accueillie, elle fait grandir cette paix-là, ce sentiment de bienfaisance, parce qu'elle est utile. Comme autant elle l'est pour la nature, s'il ferait trop chaud jour après jour, de toute façon, on ne l'apprécierait plus. Alors les gens qui courent après le bonheur, ils ne l'apprécient plus parce qu'ils courent après toujours le soleil, ils sont toujours dedans, ils ont l'impression en tout cas, mais ils ne sont pas nécessairement heureux. Je pense que c'est une belle réflexion, mais le côté ludique de ça fait en sorte que c'est universel, autant pour les adultes, pour les aînés, pour les enfants, les jeunes, les très jeunes enfants. Combien de parents m'ont dit à quel point leur enfant avait compris, tu sais, que ne serait-ce qu'une petite pointe de ce que c'est les émotions, de les ressentir, vibrer mes parents dedans.
D'accord. Donc ça serait, ce que je perçois, c'est que c'est la fondation, vraiment amener l'enfant à prendre conscience de ce qu'il ressent, l'encourager à développer cette aptitude, à en prendre conscience, ressentir et peut-être aussi à l'exprimer et en parler. Alors est-ce qu'il y aurait une seconde étape où, donc là je ne sais pas si on est encore dans le piège de la performance, mais ça serait, est-ce que par exemple si on veut que l'enfant ait suffisamment de courage ou la motivation pour faire un sport, pour faire du vélo, pour faire quelque chose dans laquelle il a de la difficulté, il a exprimé cette difficulté, on l'a félicité, on l'a encouragé de dire c'est tout à fait normal, t'es pas le seul, c'est comme on a parlé de ces météos, de ces choses qui passent, c'est tout à fait naturel. Quelle serait ensuite la mise en mots pour l'amener à avoir envie de, peut-être d'essayer davantage?
Oui. Bien, je pense aussi que ça aide l'enfant à connaître vraiment qui il est. si l'enfant, par exemple, il va faire du vélo, puis il a peur des chutes, mais il exprime cette peur-là, puis on reconnaît cette peur-là, mais si l'enfant, il aimerait vraiment faire du vélo, est-ce que tu penses qu'il va l'essayer quand même? Je pense que oui, moi, davantage. Mais si on a affaire à un artiste, un enfant artiste, que lui, il préférerait jouer du piano, mais son père veut vraiment qu'il fasse du vélo, puis que l'enfant, il reconnaît ses peurs, puis que le parent, il accepte tout ça, puis il vit avec ça, puis que finalement, le jeune, il dit « Moi, je veux pas en faire du vélo, mais j'aimerais jouer du piano. » Tu comprends? Fait que, tu sais, je pense que ça aide beaucoup à l'enfant à reconnaître qui il est vraiment, puis ce qu'on veut, tu sais, c'est d'apprendre à être qui on est vraiment. Tu sais, quand on exploite nos valeurs profondes, puis nos talents profonds, on réussit, hein? On a une drive du tonnerre, puis on réussit.
Oui. Oui, c'est vrai que c'est quand même fondamental que la culture.
Oui, que l'enfant souvent, puisse... beaucoup d'enfants n'ont pas eu la chance peut-être d'aller assez profondément en eux pour connaître « Hey, moi, là, qu'est-ce qui me fait vibrer par en dedans? » Tu sais, puis avant de se poser cette grande question-là, il a fallu peut-être des peines, des souffrances, des inconforts. Moi, je prône beaucoup ça parce que je me disais quelque part, si on est capable de développer le savoir-être, mais aussi la sensation d'être bien dans le désagréable, moi, en tant que parent, ça me donne... une confiance et une foi inébranlable envers mes enfants. Parce que je sais qu'ils vont avoir un pouvoir de résilience. Cette résilience-là, c'est de rebondir.
Il la trouve en eux. C'est pas appuyé sur des croyances extérieures ou sur des choses qui vont changer, mais il la trouve au fond d'eux-mêmes. Je pense que c'est essentiel.
En tant que parent, puis tu sais, dans les classes que je parcours avec les enfants, beaucoup d'enfants, justement, ils ont appris à reconnaître ces météos-là. Ils ont appris à s'aimer comme ils sont. Qui ont cette résilience-là de dire ben, si je veux en faire du vélo, si je veux faire, si je veux réussir, je vais rebondir. Cette résilience.
Oui, parce que c'est vrai que c'est. Bon, le vélo, c'était un exemple. Après, si on creuse un peu plus, ou si j'imagine certains parents qui sont face à un enfant qui est en difficulté scolaire, qui est tout petit encore, ou qui ne sait pas encore suffisamment lire ou faire les bases. Et bien sûr, l'enfant, il peut pas se permettre d'arrêter maintenant parce que ça ne lui plaît pas. Donc, est-ce que le simple fait de l'amener à se connecter à lui-même et à accepter ce qu'il ressent, est-ce que ça va suffire à faire le pas ensuite et à se concentrer à l'école ou à se focaliser ou...
Ben, moi, je crois sincèrement qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va aider l'enfant, c'est que ça va enrichir des relations entre le parent et l'enfant. Souvent, l'enfant, il a besoin de cette relation-là, mais parfois, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vie effrénée et en tant que parent, on n'a peut-être pas assez de temps pour prendre ce temps. Donc, un enfant, tu sais, qui a des difficultés scolaires ou un enfant, par exemple, qui ne veut plus aller à l'école puis il est en maternelle ou en première année, mais si le parent prend le temps d'être à l'écoute de ça, c'est qu'il y a des... Tu sais, un enfant qui commence à avoir des difficultés, cognitives ou etc., tu sais, il faut prendre le temps aussi d'être à l'écoute de ça. Il y a peut-être des difficultés autres que ça, mais moi, je dis que quand il y a quelque chose au niveau relationnel entre un parent et un enfant, il y a un lien de confiance qui se tisse, puis ça peut faire une différence. Tu pourrais peut-être être surpris de ce que tu vas entendre. Peut-être que l'enfant, il vit des choses, mais il n'en avait jamais parlé. Peut-être que... Des fois, c'est dans son imaginaire aussi qu'il vit des choses. Mais s'il n'a jamais le temps d'en parler, moi, je pense que c'est tout le côté relationnel. Puis c'est pour ça que je prône beaucoup le toucher aussi, parce qu'un enfant qui est touché, c'est un enfant... Le toucher, c'est le premier mode de communication qu'on a eu, le premier sens qui est né en nous. Alors, quand on ressent ce sens-là, quand on est en contact avec ce sens-là, on a l'impression de rentrer en relation avec nous pour ensuite rentrer à la relation avec les autres. Ça, c'est important, mais si on n'a jamais rentré en relation avec nous, si on n'a jamais appris à se déposer avec nous, on ne peut pas rentrer en relation avec les autres. Il y a quelque chose qui n'existe pas en nous, on ne se connaît pas. Fait qu'on est comme un peu, excuse-moi l'expression, poker face. Là. On ne sait pas trop ce qui se passe, puis on pense qu'on est comme ça parce qu'on a regardé chez les voisins. Ça demande quand les voisins performent, hein?
C'est vrai que tu portes une par rapport à tes ateliers, tu portes une importance assez grande au niveau du massage, au niveau du toucher. C'est vrai que ça peut être aussi une voie d'accès pour les parents. Par exemple, un parent qui est surmené, qui est fatigué, qui est pas forcément disponible, ça reste quand même beaucoup plus, ça peut être plus facile pour lui de simplement toucher, prendre l'enfant dans ses bras, le masser, avoir ce premier contact tactile, et après peut-être que ça peut ouvrir la porte à une plus grande communication,
à une relation
plus vraie.
C'est ça, puis c'est pour ça que puis le massage caméléon, tu sais, que j'essayais de développer, c'est à peu près, oui, 30%, oui, dans le toucher, mais c'est comme toutes les histoires qui s'éveillent autour du massage caméléon, justement, qui vont traiter certaines émotions dans le désagréable, toujours, pour comprendre, pour que l'enfant puisse se reconnaître à travers ça, puis que durant tout le massage, justement, il y ait une discussion de l'animal, parce que l'enfant se reconnaît là-dedans. Puis c'est ça qui est important. Ce qu'on veut, c'est de développer le toucher sain et nourrissant, mais aussi de développer l'intention aimante. Ça, c'est grand, ça, tu sais, de développer l'intention, faire quelque chose avec une intention. Une intention et désir. On fait les choses rapidement. Aujourd'hui, on fait les choses trop rapidement. L'intention n'est pas nécessairement là. Les enfants sont là, très physiquement, mais ils ont la tête ailleurs. Alors, quand on essaie de faire, par exemple, le massage caméléon, on ramène l'intention dans le moment même, puis ne serait-ce que c'est juste une minute, bien, cette attention-là, elle a été là. C'est de l'entraînement, c'est comme n'importe quoi. Hein. Tu sais, les enfants, il faut les entraîner à être attentifs. Il faut les entraîner à être aimants. Il faut les entraîner à être patients. Comme nous, en tant qu'adultes, on doit le faire aussi, parce que moi, je m'entraîne très fort pour être patiente avec mes enfants. mais je développe une estime et une confiance en moi à chaque fois que je le fais, parce que c'est une valeur qui est profonde et importante pour moi.
Oui, oui, c'est vrai qu'habituellement, on a tendance à prendre les enfants, à les mettre dans des cases horaires où le matin, il faut faire ça, à l'école, il faut faire ça, le soir, on a tant de temps pour manger, tant de temps pour faire ça. Et comme tu dis, c'est... on leur demande d'être attentif à ce qu'ils font, mais c'est presque sous la pression. Ils subissent souvent l'action, puisque ce n'est pas une action qui est choisie avec le parent. Comme tu disais, on va mettre l'intention sur une histoire, sur une thématique, sur un ressenti. Et c'est plus... Ils sont en train de... Voilà, comme ils courent, ils courent, les parents courent, les enfants courent avec. Et ce n'est pas étonnant ensuite que... qu'ils se perdent, qu'ils ne savent plus ce qu'ils veulent, qu'ils savent plus qu'ils n'arrivent pas à se focaliser dans quelque chose.
Mais en même temps, il n'y a pas de formule magique là-dedans. Donc, c'est pas du tout cuit, il n'y a pas de formule magique là-dedans, parce qu'il faut vraiment, vraiment être convaincu, tu sais, en tant qu'être humain, qu'on est rendu là dans notre vie. Puis justement, je pense que la souffrance est là pour ça. Quand il arrive des événements perturbateurs dans notre vie où tout s'écroule, où on prend conscience qu'on devrait peut-être être, justement, qu'on se sent vide par en dedans. Puis ça, c'est des belles prises de conscience majeures qui changent nos vies, tu sais, parce que, tu sais, surtout les mères aujourd'hui qui deviennent mères, on a l'impression parfois que ça va être tout bleu, tout merveilleux, tout rose, tout facile. Mais moi, ça a été la plus grande prise de conscience dans ma vie, là, 12 ans à peu près, où finalement, pour moi, ça a ébranlé ma vie d'être une mère. Je pensais que ça allait être facile, mais ça a été très, très difficile. Mais je me disais en même temps, ce que je veux, c'est un sentiment d'amour profond puis que je recherche dans ma vie pour que je sois épanouie. Puis c'est ça que j'ai réussi à retrouver avec mes enfants, mais ça a été difficile parce qu'il a fallu que j'enlève cette carapace-là qui était en moi, qui m'empêchait d'aller vers là. Mais à quelque part, aujourd'hui, je veux rien vendre, tu sais, en étant facile, etc. C'est souffrant même à la limite parce qu'on se bat contre un peu un ego qu'on a bâti. Puis cet ego-là, il est dans la performance, il est dans la réussite, il est dans le paraître. Puis... c'est très difficile de voir se délier de ça, puis malheureusement, on amène nos enfants à vivre ça aussi sans nous en rendre compte, puis ça nous attriste de les voir, mais c'est un peu le regard qu'on n'a jamais eu sur nous-mêmes, puis ça, c'est troublant.
Oui, et après, comme tu expliques, c'est une tendance dans laquelle beaucoup de personnes sont dedans depuis qu'ils sont jeunes, parce que les parents étaient dedans, c'est la société qui a un peu imposé cela, donc il faut quand même qu'il y ait une volonté, une intention qui est presque qu'on a besoin de la nourrir au quotidien pour être dans cette ouverture, dans cette attention. Parce que j'imagine que même toi, parfois, peut-être, tu te déconnectes de cela, tu rentres dans la colère, dans la...
Souvent.
Souvent. J'imagine que c'est tout à fait naturel.
Mais si tu savais quelque part, quand ça arrive, parce que ça arrive régulièrement, là, mais que je suis capable de me réjouir, de mettre fin à ça, parce qu'il y a une conscience qui allume.
Oui.
Tu comprends? C'est comme un sentiment là, de dire waouh, la colère vient d'arriver, là, puis j'étais sur le bord de péter ou d'exploser. Et que là, il y a comme une conscience aimante, il y a comme quelque chose qui arrive, puis qui me dit, tu sais, j'ai toujours le choix, on a toujours le choix. Puis moi, tu sais, c'est le choix d'aimer avec un grand A, là, tu sais, c'est tellement important parce que c'est une ligne de conduite qui est extraordinaire, qui permet, mais tu sais, cet amour-là est difficile jour après jour. Parce que justement, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, mais en même temps, c'est une ligne qui fait que notre vie est riche et pleine de sens. T'sais, ça mène une vie, pas nécessairement juste en couleur, mais ça mène une vie qui a du sens. T'sais. Parce que tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir d'aimer.
Et oui, oui, j'imagine l'appréciation ou la gratitude qu'on peut ressentir lorsque on prend conscience de cette part de nous-mêmes qui est là, qui nous protège en quelque sorte et qui nous, oui. Qui met en lumière les choses. Et ça, c'est certainement là parce que tu l'as nourri, parce que tu l'as développé à travers une intention, à travers peut-être une pratique de la méditation, à travers des lectures, à travers l'interaction avec les autres.
Oui, puis c'est ça qui est bien, c'est que de voir maintenant dans les écoles, tu sais, en donnant un programme, que des enfants maintenant, au lieu de réagir, ils prennent une distance en distance, puis ce qu'ils vont faire, hey, c'est merveilleux ça, de donner des outils comme ça à des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même des plus vieux, parce que je travaille avec des jeunes qui ont 10, 12, 13 ans, puis c'est des enfants, tu sais, qui deviennent conscients de toute l'ébullition qu'il y a à l'intérieur d'eux. Puis juste parce qu'ils sont plus attentifs à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, ils prennent le temps de prendre ce chemin-là. Je vais prendre le chemin. Oui, je suis en colère, mais je suis pas obligée de réagir. T'sais, oui, j'ai peur, mais je vais y aller pareil, parce que j'ai assez de confiance pour y aller. T'sais. Puis moi, ça me fait un bien-être extraordinaire parce que je l'ai vécu pour moi, mais en même temps, quand on vit des choses pour nous-mêmes, puis qu'on se rend compte que notre météo intérieur est aussi mélangé que tout celle des autres êtres humains, puis qu'on a appris à être compatissant et empathique envers nous-mêmes, on le devient pour les autres. C'est ça qui est important, tu sais, parce qu'on prend beaucoup cette compassion, cette empathie, mais si on n'a jamais pris le temps de ressentir c'est quoi la vraie compassion, parce qu'on l'a eu pour nous-mêmes, dans nos propres difficultés, dans nos propres
qu'un aspect de la compassion, c'est de reconnaître ce qu'on ressent, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et comme tu disais, si on... La première émotion qui monte, la colère par rapport à quelque chose d'extérieur, on se laisse emporter dans des actions, dans des choix qui ne nous correspondent pas. C'est là où on n'a pas de la compassion envers soi-même, c'est là où on ne se respecte pas. Et ultimement on va se faire souffrir. Donc cette capacité à plonger en soi,
oui, et à ressentir ce qu'on... Oui, puis de reconnaître, comme juste, mettons, on parlait de colère tantôt, tu sais, de reconnaître que... Ça a sauté, là, je l'ai eu, la colère, puis j'ai crié après mes enfants, mais qu'après un certain temps, je suis capable de venir m'asseoir avec cette colère-là, puis de reconnaître qu'elle était là, mais d'avoir assez d'amour pour moi-même pour juste comprendre que c'est la nature de mon esprit, c'est des perturbations mentales qui arrivent, t'sais. Mais d'avoir assez d'amour pour soi, d'accepter ce qui vient d'arriver aussi, puis d'être capable de se réjouir de ce qui était en train d'arriver là au moment même. Cette compassion pour soi. Puis après ça, quand on voit la colère arriver chez d'autres personnes, on est vraiment aimant pour vrai. Parce que puisqu'on le fait des fois nous-mêmes, on a plus d'amour véritable pour les autres. Puis les enfants, ils ont une grande facilité à faire ça. Parce que souvent, ça arrive dans les classes où les jeunes, quand ils acceptent de parler de leur météo intérieur et que les autres, on voit à quel point ils deviennent aimants instantanément parce qu'ils ont de l'empathie pour le petit ami qui dit que sa météo est dans la tristesse ou dans la pluie, par exemple. Mais cet enfant-là, il ressent l'empathie, la compassion des autres, puis qu'il accepte de le prendre, il va le donner aussi. T'sais, tout le monde est fait dans cette dimension-là, puis c'est beau, l'être humain est merveilleux, t'sais, quand il apprend justement à déployer ces vertus-là.
Et c'est... Et donc, c'est ce que tu proposes dans les écoles et c'est ce que tu vas bientôt proposer aussi à Bruxelles. Donc, c'est une bonne façon de passer à cette prochaine venue que tu vas avoir en septembre-octobre. Et donc, tu vas proposer deux formations, un travail par rapport au météo intérieur et un travail par rapport au massage caméléon. Et alors, à qui s'adresse ce programme?
Bien, cette formation, elle s'adresse particulièrement aux adultes. Donc, je viens vraiment pour donner de la formation, un 6 heures de cours sur la météo intérieure et un 6 heures de cours sur le massage caméléon. C'est vraiment suite à beaucoup de gens de la France, de l'Europe, qui m'envoient des courriels. Ils ont acheté les livres parce que maintenant, on les distribue en Europe. Puis, suite à ces demandes-là, bien, ça me fait vraiment plaisir d'y aller parce que... J'ai une passion, mais en même temps, j'ai comme une mission de vie, tu sais, qui est là. Puis ce que je veux, c'est donner cette information-là, la même information que je donne au Québec, au Canada, dans les écoles, parce que j'ai travaillé fort à fonder, mais à créer un programme super facile, puis en même temps ludique, pour que les parents puissent l'utiliser à la maison et que les enseignants puissent l'utiliser à l'école, que les psychologues puissent l'utiliser dans leurs interventions, que les orthopédagogues, en fait, ça s'adresse à tous les professionnels, les parents, même les grands-parents qui aimeraient venir aussi. Donc, c'est vraiment la première. Il y a une journée qui est le 27 septembre, qui est dédiée, parce que le 27 septembre, à Bruxelles, il y a une journée de congé. C'est un mardi. Puis, on a décidé de faire ça cette journée-là, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont être en congé. Et puis, cette journée-là est dédiée au massage caméléon. Donc, on apprend les 8 techniques, mais c'est vraiment en lien avec la pleine conscience. Il y a du toucher, mais c'est de l'automassage. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que si on veut en faire dans les écoles, surtout dans les milieux publics, le toucher est un peu restreint, donc on le fait vraiment en automassage, mais je vous dis, à peu près 30% du toucher, mais le reste, c'est toutes les histoires qui sont en lien avec comment on apprend à se connaître, comment on apprend à gérer un peu notre météo intérieur. Et le 1er et 2 octobre, c'est vraiment un combo, là, c'est une fin de semaine. Donc la première journée, c'est le samedi, le 1er, c'est la météo intérieure. C'est les 5 premiers ateliers qui sont enseignés, donc avec un petit cahier de cours, mais on passe 6 heures à travailler les 5 ateliers. Et le lendemain, je redonne le massage caméléon, donc ce que j'ai donné le 27, je le redonne une nouvelle.
D'accord, et donc si un parent assiste ou un professeur ou un pédopsychiatre, après il va ppouvoir utiliser ces outils avec leurs enfants, avec leurs clients, leurs patients.
Oui. Facilement, parce que c'est ça le but. Moi, ici au Québec, c'est que depuis 2 ans, on fait des recherches avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, justement, pour prouver scientifiquement l'impact de ce programme-là. Et puis, j'ai dû travailler bien, très fort pour pouvoir simplifier, mais en même temps, tout emmener des objectifs, tout ce que ça apportait. Puis ça, c'est vraiment devenu mon cahier de cours. Donc, ce cahier de cours-là, finalement, c'est d'après les recherches qu'on a faites. Puis justement, comme je te parlais au début de notre rencontre, c'est qu'on vient d'avoir des résultats tout chauds, là, tu sais, qui sortent, qui donnent, qu'on a des données vraiment exceptionnelles, tu sais, sur le développement de l'attention chez les enfants, diminution du stress, mais surtout des comportements agressifs chez les enfants. Puis ça a été fait là, sur 150 enfants avec des questionnaires pré-post durant 12 semaines. Donc, c'est une étude assez sérieuse. Puis on en est bien fiers parce que pour réussir à développer des techniques comme ça, qu'on parle d'un prône savoir-être, quand on amène ça dans des institutions, on est un peu bizarrement vu, mais là, on commence à avoir de plus en plus d'impact parce que on a un impact sur l'apprentissage. On veut avoir favorisé la réussite scolaire chez les enfants, mais ils sont tout aussi stressés, anxieux, déstabilisés par le courant de la vie. Donc là, on les amène à la base, à comprendre ça.
Oui, surtout que ça fait des années que tu as testé, tu as travaillé avec beaucoup d'enfants. Tu as travaillé avec combien d'écoles au Québec, là, si tu as une idée?
Mais là, cette année, c'est la 9e année que je travaille avec les enfants. Et puis, on a vu à peu près au-delà de 5-6 000 enfants un peu partout au Québec, parce que le Québec, c'est quand même grand. Là. Je travaille à peu près dans une quinzaine de commissions scolaires. Donc, ça rejoint, je ne sais pas moi, 300-400 écoles. C'est immense, là, c'est très grand. Mais de plus en plus, les portes s'ouvrent. Les enseignants sont ouverts à recevoir le programme. Mais avec le temps, j'ai appris beaucoup, parce qu'au début, je rentrais dans les classes, je donnais des ateliers, puis les enseignants sortaient de la classe. Et là, maintenant, avec le temps, on donne une formation à tout le membre du personnel de l'école et les enseignants apprennent cette philosophie-là. Ceux qui ont vraiment adhéré à ça et qui veulent le mettre au cœur de leur vie à 5 à 10 minutes par jour avec les enfants, là, on donne les ateliers dans leur classe. Parce que l'enseignant doit être présent. Et l'enseignant, il doit avoir un petit côté, là, wow, ça vibre en dedans de moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin d'emmener ça dans le cœur des enfants parce que je sais que ça va être bénéfique. Puis si vous saviez à quel point, justement, ça change la classe, la dynamique de la classe, c'est ça qui est extraordinaire parce que ça amène les enfants vraiment à devenir dans un état, ils sont pas plus calmes ou, tu sais, ils sont juste là. C'est ça la différence. C'est un enfant qui est là, c'est un enfant qui est souriant. Tu sais, les enfants, ils ont cette facilité, hein? Ils ont une créativité du tonnerre, mais là, ils sont juste là. Oui. Et quand ça donne que l'enseignant est là aussi, ben ça fait wow.
Oui, ça fait des belles choses, oui. Et c'est vrai que oui, c'est pas être centré, c'est pas forcément être zen, tout calme. Un enfant peut être plein de vie, plein de peps, mais voilà, en étant simplement là. Et oui, voilà, offrir ce qu'ils ressentent à ce moment-là.
Oui, puis souvent les enseignants, c'est ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont l'impression d'être plus là. Tu sais, d'être plus là, ça veut dire c'est d'avoir l'esprit créatif, c'est d'aimer aussi sa job, son travail. Tu sais, c'est ça qui est important. hein, parce que c'est pas facile d'être un enseignant ou d'être un éducateur, parce qu'on est souvent les éducateurs spécialisés ou tout ça, là, les psycho-aides sont toujours en train d'éteindre des feux des enfants qui sont comme. Tu sais, fait quand on a des moyens pour nous-mêmes se sentir bien et zen avant d'accueillir cet enfant-là, l'enfant, il va le sentir qu'il est aimé, il va le sentir qu'il est accepté. Puis on trouve des petits moyens tranquillement. Puis c'est pour ça que la main sur l'épaule, mais le toucher, tu sais, caméléon, dans une intervention, fait une grande différence. Parce que moi, je le teste tellement souvent, parce que j'en ai toujours, tu sais, deux, trois, là, tu sais, qui bougent beaucoup quand j'arrive dans les ateliers, là. On les ressent vite, ces enfants-là, puis on va proche d'eux, on dépose les mains chaudes, ou on fait juste comme... Hey, l'enfant, là, il sent que... Il y a quelqu'un.
Il se passe quelque chose.
Oui, c'est ça. Puis souvent, ben, c'est ça. C'est cet effet de vitesse-là qui fait qu'on est un peu étourdi, mais ça ne changera pas le monde. Mais si ça change soi, c'est déjà quelque chose,
oui,
je pense.
Parce que je pense que oui, les personnes qui vont assister à cet atelier, ça leur sera également bénéfique à eux.
Mais c'est ça le premier but, parce que c'est ça que j'écris dans un de mes livres, La météo intérieure, c'est que avant de vouloir aider l'enfant à changer sa météo intérieure ou à travailler avec sa météo intérieure, vous devez le faire vous-même pour comprendre à quel point c'est pas facile. C'est vrai. Si, tu sais, il y a une personne dernièrement qui me dit, en tout cas, une maman, là, elle avait un enfant de 6 ou 7 ans, puis elle me dit qu'elle avait acheté le livre du nuage noir à son fils. Puis elle disait que ça fonctionnait pas toujours. Je disais, ben heureusement, moi non plus, ça ne fonctionne pas toujours avec mes enfants. Puis de toute façon, quand ça ne fonctionne pas, ben je le fais pour moi-même, puis je me sens heureuse de le faire parce que j'aime encore plus mes enfants. T'sais, fait que souvent, les gens achètent des affaires pour des formules magiques en pensant que tout va être réglé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Puis je suis réaliste parce que c'est pas toujours dur, c'est pas toujours facile, excusez, d'être équilibré. Puis je pense que de toute façon, c'est pas comme ça. Hein, on parlait d'impermanence.
Oui, après ce que la personne est en train de vivre en ce moment, ça peut, il y a des phases, on passe par des phases, il y a des moments où on est très sollicité, où c'est plus difficile,
ouais.
Des moments où on est un peu plus disponible, et oui, être un peu tolérant envers soi-même, bienveillant envers soi-même, et voilà, essayer petit à petit de changer un peu cette dynamique et de tourner un peu attention vers soi plutôt qu'être dans la réaction et dans la course continue.
T'sais, parce qu'on pense, on parlait un peu du départ de la confiance en soi, d'avoir confiance en soi, on a l'impression que c'est d'être ferme, c'est d'être fort, puis tout ça. Mais moi, je crois véritablement que la confiance est dans le lâcher prise. T'sais, quand on lâche prise, lâcher prise, c'est de laisser aller la résistance. On est qui on est. T'sais. Si moi, je sens que je suis quelqu'un de gourmand, si je résiste toujours à cette gourmandise-là, ça va toujours me déranger. Mais si je lâche prise avec cette gourmandise-là, puis que je célèbre cette gourmandise-là, on dirait que j'ai comme le goût de plus me freiner parce que je veux en profiter plus longtemps. Non, mais c'est vrai, pareil.
C'est vrai.
Alors, le lâcher prise va automatiquement avec cette confiance en soi. Il ne faut pas être dans la résistance, mais c'est un art.
Oui, c'est un art. Et c'est vrai que oui, même, et surtout en tant qu'adulte, c'est soit on se crispe parce qu'on veut être de telle façon, être confiant ou manifester tel trait ou telle aptitude, on se crispe et là on sait plus, on perd l'accès à nos ressources, on perd notre humour, on perd notre intelligence, on n'est plus soi-même. Et c'est vrai que une bonne définition de la confiance, c'est comme tu disais, quoi, c'est être relax, quoi, lâcher prise, être soi-même, piocher dans ce qu'on a déjà. On est capable d'interagir avec les autres parfaitement comme on est déjà aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas dans la projection de qui on devrait être ou de ce qu'on devrait faire.
Et... C'est ça, puis c'est fabuleux parce que souvent j'emmène beaucoup les enfants dans leur imaginaire, puis on parle beaucoup du cerveau, hein, c'est important de comprendre qu'on a un cerveau, puis on a de l'impact là-dessus, puis ça arrive même souvent, on fait un exercice de visualisation, puis un enfant lui avait dit qu'il avait vu son cerveau, il était tout noir, puis on lui donne un nom, puis il avait décidé d'appeler Araignée.
Araignée.
Araignée noire. Puis avec le temps, tu sais, avec les ateliers, plus les ateliers suivaient, on faisait souvent des exercices de, tu sais, juste de centrer, d'apprendre à respirer, d'être bien, d'être calme. Puis à un moment donné, il est venu me voir, puis il m'a demandé, il dit, mon cerveau, il dit, je pense qu'il n'est plus de la même couleur, puis est-ce que je pourrais le changer de nom?
Ah.
Il avait vu de la couleur apparaître tranquillement, pas vite, puis il a décidé de changer de nom. Jusqu'à un moment donné, il s'est appelé Arc-en-ciel.
Ah, donc une belle transformation.
Une belle transformation, puis tu sais, un coup qu'un enfant a vu quelque chose dans son esprit, tu lui enlèveras jamais ça. C'est sa certitude. C'est grand. Hein? Puis c'est sûr qu'un coup qu'on, tu sais, un coup qu'on a une prise de conscience, puis plein le monde nous l'avait dit là, depuis fort longtemps. Mais là, à un moment donné, ah, l'éclair, elle arrive en dedans et la prise de conscience arrive. Ça va changer ta vie là parce que tu l'as conscientisé. Alors, un jeune enfant de cet âge-là, qui lui, probablement, avait une estime personnelle et une confiance en soi très petite, avec le temps, plus il a plongé au cœur de son cerveau noir, ben, je pense qu'il a décidé de mettre la couleur. Par lui-même, par amour pour lui. Puis, à un moment donné, ben, il s'est appelé arc-en-ciel, son cerveau. Puis, je suis convaincue que cet enfant-là, il a cette croyance-là, tu sais, en lui-même, son estime, sa confiance a grandi. Puis, parce qu'il l'a ressenti en lui, par choix, par... c'est lui-même. Puis,
oui, c'est ça, moi. C'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur. Et c'est comme le cerveau, voilà, noir, araignée, c'est pas forcément associé à quelque chose de mauvais, mais voilà, c'est ce que lui perçoit à ce moment-là. Et oui. Cette transformation, elle s'est faite en lui sans imposer ou vouloir amener, voilà, soit content, soit des couleurs. Oui. Non, ça se fait naturellement.
Oui. Oui, ça se fait tranquillement parce que moi, j'y avais posé cette question-là. Je dis, c'est noir, puis il s'appelle araignée. Mmh. Comment tu te sens avec ça? Ben, il dit, il est lettre comme moi.
Ah.
Voilà, il est d'être comme moi, tu sais. Ben, je disais, peut-être qu'avec le temps, plus on va y aller, plus tu vas t'apercevoir qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas vues, tu sais. Tu sais, ça reste marqué pour nous aussi en tant que personne. Puis un enseignant, tu sais, qui entend ça parce qu'elle était dans la classe, ça vient la chercher, hein. Puis ça fait en sorte que la relation change parce que la personne n'a peut-être jamais vu cet enfant-là. Puis pourtant, c'était le petit Anna là, qui était dans la classe. Mais là, pour une première fois, peut-être qu'elle a ouvert son cœur parce qu'elle a entendu quelque chose qui l'a touché, tu sais. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Les enfants se disent, ils se permettent de parler d'eux-mêmes qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant parce que malheureusement, ils n'ont pas de place pour le faire, peut-être.
Oui, c'est vrai que là, montrer de la vulnérabilité, c'est quelque chose que très vite, on apprend à...
C'est ça. Puis pourtant, des fois, pourtant, ça peut être un enfant d'une famille très bien nantie, là. Mais il y a tellement un sentiment, peut-être, d'avoir l'impression qu'il faut qu'il performe, puis qu'il y a des exigences très élevées. Mais lui, il se sent tellement araigné noir dans son cerveau noir parce qu'il sait qu'il est peut-être pas capable d'être à la hauteur de ce qu'on lui demande. Il garde ça secret à l'intérieur de lui, puis malheureusement, il s'enligne dans une direction qui est un peu négative, tu sais. Alors, des fois, il faut avoir comme une place. Puis souvent, des fois, on est des meilleurs intervenants avec d'autres enfants qu'avec nos propres enfants.
J'imagine, oui.
OK, oui. Parce que nos enfants, ça nous déchire, ça nous fait mal. On se reconnaît à travers ça, puis on n'aime pas toujours ça. Mais des fois, on est probablement des meilleurs intervenants avec des gens à l'extérieur. C'est pour ça que moi, pour ça, mon travail est très riche, parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est important ce que je fais là, parce que on est plus neutre émotionnellement aussi, hein?
Oui, j'imagine, oui.
Oui. Malgré que le cœur est toujours là quand même.
Et donc pour la, on va dire pour conclure, le programme que tu vas proposer, est-ce que tu recommandes de lire les livres avant de participer à ton programme?
Pas nécessairement, mais je sais que les gens, en tout cas à date, qui se sont inscrits ont tous les livres parce que c'est comme ça que j'ai réussi à les contacter, ces gens-là. Mais non, pas nécessairement, parce que c'est vraiment quelque chose de facile. Mais même avec la lecture des livres, il y a comme autre chose aussi qui va se glisser à partir de ça, parce qu'il y a comme un manuel de cours que je vais fournir. Mais en même temps, ça peut être utile de l'avoir lu comme non plus. Là. Donc, je recommande pas... c'est la présence, puis en même temps, c'est devenir pour soi. C'est ça qui est important, c'est devenir pour soi pour avoir le goût d'aller vers soi pour aller vers l'autre. Ça, c'est important parce que, tu sais, être un bon parent, c'est de désirer avant tout rentrer en relation avec soi pour être avec l'autre aussi. Puis ça, souvent dans les journées de formation, c'est quand même 6 heures, puis je vais dire une expression québécoise, mais je mâche pas mes mots. Donc, souvent, je vais aller en profondeur dans des choses pour justement permettre. Puis je me suis permis à moi-même parce que je trouve que ça a été pour moi un plongeon nécessaire. Puis c'est ça que j'essaie de faire, d'aller vraiment plonger la personne au cœur de ce qu'elle est pour qu'elle ait juste le goût de le savourer. Ça peut être désagréable un brin, ça peut être agréable, je ne sais pas. Mais pour qu'elle puisse aussi trouver la direction pour amener son enfant dans cette lignée ou ses étudiants ou quoi que ce soit. Là. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça va être un grand apprentissage tous ensemble.
Oui, c'est une expérience à vivre. Et je pense par rapport à tout ce que tu as déjà partagé, la plupart des personnes vont avoir une bonne idée de la couleur que ça va avoir, de la direction que ça va prendre. Et comment les gens peuvent avoir plus d'informations par rapport à ces programmes, comment on fait pour s'inscrire?
Oui, ben c'est ça, c'est par le biais de mon site internet sur arbrancœur.com, donc probablement que tu vas pouvoir le glisser. Arbrancœur.com, les inscriptions se font en ligne. Donc,
j'ai arbrancœur.com.
Oui, arbrancœur.com.
D'accord, je mettrai le lien aussi sous cet entretien. Et comme ça, ils auront tous les détails. Et donc, tu nous as dit, c'est fin septembre, début octobre.
Ouais, 27 septembre, mardi le 27 septembre, c'est la journée du massage caméléon. Mm-hmm. Et le 1er octobre, c'est la météo bien. Intérieure. Et le lendemain, le dimanche le 2, c'est le massage caméléon.
D'accord, c'est sympa à retenir. 1er et 2 octobre. OK. Très bien. Manon, merci beaucoup encore pour avoir partagé tout ce que tu viens de partager avec nous. Et donc j'invite tout le monde à déjà aller voir ton site, ça, comme ça ils vont découvrir encore plus d'informations par rapport à ces stages, par rapport à ces formations. Et je te remercie encore une fois pour ton temps et ta générosité. Et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup. Bonjour.